VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans la Corne de l'Afrique. AFRICOM, le commandement militaire américain en Afrique, dément les accusations d'Amnesty International faisant état de victimes civiles dans les frappes américaines en Somalie. Le point avec Anna Botson.
Amnesty International affirme que 14 civils ont été tués ces deux dernières années dans des frappes aériennes américaines en Somalie. Des accusations que les militaires américains démentent énergiquement. L'ONG de défense des droits de l'homme a publié mardi un rapport fondé, selon elle, sur les déclarations de 65 témoins, plusieurs photos, des images satellites et des posts sur les médias sociaux. AFRICOM, le commandement américain en Afrique, souligne qu'aucun civil n'a été tué dans les frappes contre les djihadistes Shebab et que le rapport d'Amnesty International ne reflète pas correctement les efforts extraordinaires déployés par AFRICOM pour éviter de faire des victimes civiles. Les frappes américaines sont effectuées en coordination avec le gouvernement somalien et sont caractérisées par une politique de grande retenue, précise AFRICOM.
Relations États-Unis-Cameroun maintenant. Retour sur la visite dans le pays du secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines Tibor Nadje, qui a rencontré lundi à Yaoundé le président Paul Biya dans un contexte quelque peu tendu. Le gouvernement camerounais a en effet mal digéré les récentes sorties médiatiques de ce diplomate américain sur la gestion de la crise anglophone et sur l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto et d'une centaine de ses partisans. Pour analyse, John Lindon a joint le professeur Joseph Ntouda Ebodé, directeur du Centre de recherche politique et stratégique à Yaoundé.
On peut retenir principalement deux choses. La première, c'est que c'est une reprise de contact au niveau assez élevé après une hibernation assez longue. Et la troisième chose, c'est que cette visite arrive à un moment où il y avait un certain nombre de préoccupations dans l'opinion publique et dans la classe politique. Et la position américaine est donc venue plus ou moins pour donner la version américaine ou la posture américaine par rapport à ces problématiques.
Alors, dans un tweet, M. Tibor Nadje dit avoir eu avec le président Biya des discussions sur la sécurité et les droits de l'homme. Y a-t-il un problème de respect des droits de l'homme au Cameroun?
Ça dépend de comment on regarde tout cela. Je crois que du point de vue des États-Unis, et lorsqu'on lit l'ensemble de leurs rapports publiés ces derniers temps, il y a des accusations de violation des droits de l'homme. C'est une évidence du point de vue de leurs rapports. Du point de vue du Cameroun, c'est pas certain que tout ce qui est indiqué comme violation des droits de l'homme est une atteinte aux droits de l'homme. Donc, de toutes les manières, la rencontre aura permis au moins de donner et d'écouter les uns et les autres. Néanmoins, dans la déclaration de circonstances, il n'a pas évoqué cet aspect en disant que les questions diplomatiques sont sous couvert du show du secret.
Avant son arrivée au Cameroun, on a quand même remarqué un échange de mots parfois pas très diplomatique entre le côté américain et le Cameroun. On a enterré, j'ai envie de dire, la hache de guerre.
Disons, dans les déclarations à la sortie de l'audience, on a l'impression qu'on a enterré la hache de guerre, mais vous savez aussi que c'est un comportement diplomatique normal. C'est plutôt le précédent comportement qui n'était pas tout à fait très diplomatique.
Et comment voyez-vous l'avenir des relations entre les États-Unis et le Cameroun au cours des prochaines années?
Moi, je crois que les relations entre le Cameroun et les États-Unis sont dans une bonne perspective. Je voudrais quand même souligner que ce fut le premier pays qui a reconnu l'État du Cameroun et que jusqu'aux années 90, il n'y a jamais eu de différend majeur entre le Cameroun et les États-Unis. La lutte contre le terrorisme dans la zone du Golfe de Guinée, surtout au niveau du Boko Haram, je crois qu'il est de l'intérêt des États-Unis que la situation contre le terrorisme s'améliore. Il est aussi de l'intérêt du Cameroun et des États de la sous-région.
Joseph Ntouda Ebodé, directeur du Centre de recherche politique et stratégique à Yaoundé, au Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a effectué des changements à la tête de la très redoutée et critiquée Agence nationale des renseignements, l'ANR. Le patron de l'ANR, Khalev Moutond, actuellement sous sanction de l'Union européenne, est remplacé par son numéro 2, Inzoun Kakiak, selon une ordonnance présidentielle lue sur la chaîne d'État RTNC. Très proche de l'ancien président, Joseph Kabila, l'administrateur de l'ANR sortant, est l'une des 14 personnalités congolaises sanctionnées par l'Union européenne pour la répression des manifestations de l'opposition pendant les dernières années du régime de Joseph Kabila. Et toujours en Afrique centrale, en Guinée équatoriale, les avocats de l'opposant Joaquin Eloayeto, arrêté fin février à Malabo pour avoir critiqué le président Teodoro Obiang Nguema, ont demandé aujourd'hui sa mise en liberté provisoire. C'est ce qu'indique son parti dans un communiqué. Joaquin Eloayeto a été appréhendé fin février et inculpé début mars pour tentative d'assassinat du chef de l'État. Les avocats de l'opposant estiment que le manque de preuves et l'état de santé de leur client justifient une libération provisoire. En Côte d'Ivoire, des affrontements sur fond de grève des enseignants ont opposé hier élèves et policiers à Abidjan. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Les enseignants d'une grande partie des écoles primaires et secondaires sont en grève depuis près de 2 mois. Ils réclament de meilleurs traitements et conditions de travail. L'université Félix Oufouette-Boigny a connu 6 semaines de grève des professeurs avant une suspension début mars. Selon plusieurs témoignages, des élèves et étudiants voulaient empêcher les cours de se dérouler dans des établissements où la grève n'est pas suivie. Un groupe d'élèves et étudiants de la FESI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, en furie est venu pour déloger leurs camarades de Mermoz à Cocody, a expliqué un témoin, ajoutant qu'ils ont été empêchés par les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Des incidents similaires se sont déroulés devant le lycée moderne de Cocody, où des policiers ont fait usage de lances à eau pour disperser des élèves qui ripostaient en leur jetant des pierres. Les grèves sont récurrentes en Côte d'Ivoire depuis 2 ans, malgré la signature en août 2017 d'une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires.
Les séquelles du cyclone Idai en Afrique australe maintenant. Au Mozambique, les secouristes redoublent d'efforts ce mercredi pour sauver des milliers de personnes toujours réfugiées sur des arbres détroits après le passage du cyclone Idai dans le pays au Zimbabwe voisin en fin de semaine dernière. Le président mozambicain Philippe Nyusi s'est rendu hier dans la région la plus affectée pour évaluer personnellement l'étendue des dégâts. Bagassi Koura.
D'après les informations qui nous ont été données ici en arrivant sur le terrain, on est déjà à plus de 200 morts, a déclaré M. Nyusi à la fin d'un conseil des ministres qui se tenait à Beira, dans le centre du pays, une région en partie détruite par le cyclone. Le précédent bilan officiel faisait état de 84 morts dans cette région de Beira. Près de 350 000 personnes sont actuellement en zone inondée, selon le président. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, a-t-il estimé, ajoutant que le gouvernement avait déclaré un deuil national de 3 jours à compter du 20 mars. Sur le plan matériel, 23 000 habitations, 30 unités de santé et 507 salles de classe ont été détruites, selon les autorités mozambicaines.
Actualité aux États-Unis pour terminer. Ici à Washington, le président Donald Trump a loué la proximité sans précédent entre les États-Unis et le Brésil. Son homologue brésilien Jair Bolsonaro, en visite aux États-Unis, a affiché un pro-américanisme très marqué mardi qui tranche avec la tradition de la diplomatie brésilienne. Eric Manirakiza.
Au-delà d'une passion commune pour les tweets et d'un goût revendiqué pour la provocation, l'ancien magnat de l'immobilier et l'ex-parachutiste sont à l'unisson sur nombre de sujets, de leur rejet du multilatéralisme à la dénonciation de l'accord de Paris sur le climat. Vous faites un travail fantastique, vous avez rassemblé votre pays, a lancé le président Trump depuis les jardins de la Maison-Blanche. Le président brésilien s'est dit convaincu que le milliardaire serait réélu en 2020. J'ai toujours admiré les États-Unis et cette admiration est devenue encore plus forte après votre prise de fonction, a dit Bolsonaro. Ils ont insisté sur une coopération économique renforcée. Monsieur Trump s'est dit prêt à accorder au Brésil le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN et a même évoqué à la stupeur générale une possible adhésion de la première puissance économique d'Amérique latine à l'Alliance Atlantique. De son côté, le président Bolsonaro a annoncé qu'il autoriserait les États-Unis à lancer des satellites depuis son centre spatial d'Alcantara. Les deux hommes ont aussi affiché leur unité sur le Venezuela, faisant encore monter la pression sur le président Nicolas Maduro, dont il réclame avec force le départ. Un peu plus tôt, devant les journalistes, les deux hommes avaient échangé des maillots des équipes de football de leur pays. Je m'en souviens encore de Pelé, a lancé M. Trump, louant les qualités de la Seleção.
Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.